C'est le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, in or out, Novak Djokovic toujours dans l'attente. La Cour fédérale australienne se donne encore quelques heures pour délibérer sur l'expulsion ou pas du numéro 1 du tennis mondial. On y revient après les autres titres, Christelle.
Des retardataires du vaccin résignés, les centres font le plein alors que certains passes sanitaires ont été désactivés depuis hier. Un meeting immersif et olfactif. Jean-Luc Mélenchon propose un inédit technologique tout à l'heure à Nantes, où comment se démarquer face à une gauche de plus en plus divisée avec une candidature de plus, celle de Christiane Taubira. Il aimait le style et il avait su imposer le sien dans la rue ou encore au cinéma. Le créateur italien Nino Cerruti est mort à l'âge de 91 ans.
Un mot sur notre invité à partir de 8h20. Question ce matin sur la défiance des citoyens envers les élus. Les raisons de cette défiance, c'est le titre du dernier livre de Luc Rouban, directeur de recherche et membre du CEVIPOF.
France Inter. Le suspense jusqu'au bout du bout. Novak Djokovic ne sait pas encore s'il pourra ou non briguer un quatrième titre de suite à l'Open d'Australie. La Cour fédérale australienne s'est réunie pendant 5 heures cette nuit pour statuer sur l'expulsion du numéro 1 mondial. Et vu l'importance de cette décision qui sera définitive, elle a choisi de se donner quelques heures de plus pour délibérer, Fabrice Abgral.
Oui, c'est vrai. Les trois juges fédéraux examinent actuellement les pièces du dossier pour prendre une décision, celle d'expulser ou non Novak Djokovic. L'audience a débuté à 9h30, heure de Melbourne. Les débats se sont déroulés en visioconférence. Novak Djokovic était présent, entouré de ses avocats. Face à lui, trois juges de la Cour fédérale australienne. Les avocats du CERN ont pris tout d'abord la parole pour réaffirmer que Djokovic avait bien contracté le virus, qu'il avait été contrôlé positif le 16 décembre, juste avant son départ pour Melbourne, et qu'il avait en tout point respecté les conditions d'entrée en Australie. Ils ont qualifié l'éventuelle décision d'expulsion d'irrationnelle et de déraisonnable. Les avocats de Djokovic se sont exprimés durant une heure et demie avant que Stephen Lloyd, l'avocat représentant le ministère de l'immigration, ne prenne la parole. Lui, il s'est exprimé durant près de deux heures. Il a tenté de démontrer que Djokovic a toujours été un anti-vaccin et qu'il représentait un mauvais exemple, mais aussi un risque, voire même un danger pour la santé des Australiens. La séance a été suspendue à 4h45 heure française, 14h45 heure locale. Les trois juges examine les arguments des deux parties minutieusement, conscient aussi qu'il faut prendre une décision rapidement puisque l'Open d'Australie et Novak Djokovic débutent demain le tournoi. Ils devraient rendre leurs conclusions aujourd'hui mais ne fournir les explications et les justifications que demain.
Fabrice Abgral, merci. Plus de peur que de mal dans le Pacifique. L'alerte au tsunami est passée après la puissante et spectaculaire éruption d'un volcan sous-marin aux îles Tonga. Des vagues de plus d'un mètre ont frappé les côtes japonaises, 1,70 m au Chili. Les dégâts sont importants au Tonga. Des bateaux, des rochers ont été projetés sur le rivage et il n'y a toujours pas de communication puisque l'éruption a coupé des connexions sous-marines.
En France, Christelle, les retardataires du vaccin se bousculent dans les centres de vaccination.
Oui, depuis hier, ceux qui n'ont pas fait leur rappel 7 mois après leur deuxième injection voient leur passe sanitaire désactivé. Alors à Paris, un centre a rouvert sur le parvis de l'hôtel de ville. Camélia, interne en médecine qui pratique les injections, a vu passer des patients résignés, mais pas forcément motivés.
La majorité des patients qui viennent depuis les annonces du gouvernement sur l'expiration du pass, ils viennent surtout pour ça, pour mettre à jour leur pass sanitaire sur le côté administratif et pas du tout par conviction. Du coup, ils sont pas contents, leur force un petit peu la main, ils disent qu'ils sont obligés et que de toute façon, ils n'ont pas le choix et ils le font par défaut. Ils veulent juste le pass, c'est tout. D'une manière ou d'une autre, la finalité est la même. C'est de se faire vacciner au final. Qu'ils le fassent par conviction ou juste parce qu'ils ont peur de perdre le pass, l'essentiel c'est qu'ils se fassent vacciner. C'est très rare les gens qui viennent juste sur le volet médical ou pour être protégés avec la troisième dose.
Quant au pass vaccinal, le Sénat a donné cette nuit son accord de principe au texte malgré certains points de désaccord. L'Assemblée nationale doit définitivement l'adopter dans la journée pour une entrée en vigueur dans les prochains jours. En Grèce, à défaut de convaincre toute la population de se faire vacciner, on est passé à la contrainte. Là-bas, 90% de la population de plus de 60 ans a reçu ses injections, mais plus de 300 000 personnes ne veulent pas en entendre parler. Alors, elles sont mises à l'amende à raison de 100 euros par mois tant qu'elles n'auront pas pris rendez-vous à Athènes. Angélique Coronis.
Quand puis-je prendre rendez-vous pour me faire vacciner?
On peut faire ça tout de suite.
Les demandes de rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid se font en Grèce soit par Internet, soit via son pharmacien. Et depuis l'annonce faite le mois dernier par le Premier ministre d'une amende de 100 euros par mois pour les plus de 60 ans non vaccinés, cette pharmacie du quartier populaire de Kypseli ne désemplit pas. Pourtant, Elvira, qui approche les 70 ans, ne veut toujours pas entendre parler de vaccin et s'insurge.
C'est mon mon droit, non? Je suis une citoyenne libre, j'ai un problème de santé et je vais être sanctionnée pour ça.
Un peu plus loin, sur cette même place Kipsel, Apostolis retraité trouve malgré tout cette mesure très logique.
C'est juste, très juste. Cela va obliger nos concitoyens à le faire. C'est une mesure extrême, certes, mais nécessaire.
75% de la population a reçu jusqu'à présent ces deux injections en Grèce, mais devant les milliers de nouvelles contaminations par jour, le gouvernement veut passer, sans le dire, à l'obligation totale pour la troisième injection en ce qui concerne les adultes. Aussi, à partir du 1er février, les plus de 50 ans seront pénalisés. Leur passe sanitaire sera annulé, à moins qu'ils puissent justifier soit d'une troisième injection, soit d'un futur rendez-vous pour la faire. Athènes, Angélique Couronis, France Inter.
À l'actualité politique avec donc cette candidature de plus à gauche, celle de Christiane Taubira.
Figure de la gauche morale, elle sera la seule à se soumettre à la primaire populaire et espère une hypothétique union de la gauche. Plus de 120 000 personnes participeront dans une dizaine de jours à un vote en ligne avec les 7 candidats retenus par les organisateurs, qu'ils le souhaitent ou non. Il y aura donc le nom de Jean-Luc Mélenchon qui pourtant ne veut pas en entendre parler et qui trace sa route. Aujourd'hui, à Nantes, le leader de la France insoumise propose un meeting immersif et olfactif, écran géant et odeur garantie devant 3000 personnes. 5 ans après les hologrammes, il cherche une fois de plus à innover, Laurence Perron.
C'est une sorte d'immense caisson, tapissé d'écran.
Là, c'est des lettres, c'est pas... il faudrait voir dans le noir tout ça, mais c'est...
Au milieu, une scène sur laquelle Jean-Luc Mélenchon va jouer une partition millimétrée.
Clairement, le fait nouveau, il n'y en a pas, à part ça, et Madame Taubira. Vous avez eu une scène dont cette pauvre Madame Hidalgo a été la victime tellement exemplaire, un leader socialiste qui arrive dans une manif de profs et qui se fait jeter. C'est pour vous dire qu'il faut accepter... que la politique, c'est pas seulement un jeu de petits chevaux de bois.
On se souvient qu'en 1988, pour la réélection de François Mitterrand, c'est ce même Jean-Luc Mélenchon qui avait lancé le 36-15 tonton sur Minitel. Il avoue sans complexe sa passion des gadgets.
Mais c'est pas une surenchère, bon sang. La politique, c'est de la créativité.
Ici, tout est supervisé par un scénographe, David Mathias, qui travaille d'ordinaire pour de grands groupes ou des événements commémoratifs importants. Pour ce voyage au-delà des frontières et du réel, il y aura aussi les dessins de l'illustratrice Séverine Cordier, ainsi que les odeurs.
L'odeur de l'espace.
Et qu'est-ce que j'ai le droit de dire?
Le reste, non.
Mais si vous partez dans l'espace, il y a vos concurrents qui vont être contents.
Ils pourraient, ouais.
Et puis voilà.
Merci à tout le monde.
On est sommé de partir. On en saura plus aujourd'hui. À 14h.
Les odeurs de l'espace, c'est quand même étrange. Quant à Éric Zemmour, ses propos sur la scolarisation des enfants en situation de handicap ont provoqué un véritable tollé. Vendredi, le candidat d'extrême droite avait expliqué que, je cite, « l'obsession de l'inclusion était une mauvaise manière faite aux autres élèves et qu'il fallait des établissements spécialisés », une déclaration jugée pitoyable par la secrétaire d'État chargée du handicap, Sophie Cluzel. Il avait habillé Alain Delon, Marcello Mastroianni au cinéma ou réaliser le stylisme de l'écurie de Formule 1 Ferrari. Nino Cerruti est mort ce samedi à l'âge de 91 ans. Cerruti, l'un des plus fameux mais aussi des plus discrets stylistes italiens. Antonino Gallofaro.
Nino Cerruti, c'est la révolution du monde de la mode. C'est 70 ans de carrière, d'élégance et de nonchalance. C'est une histoire qui commence en 1950 lorsqu'il hérite de l'entreprise familiale à seulement 20 ans. C'est une attention particulière au design des habits qui le fait devenir le styliste italien le plus connu au monde. C'est aussi une relation avec la France, avec Paris, où il arrive dès les années 60. Il choisit l'hexagone plutôt que la botte pour son premier défilé.
Mais les valeurs en 1966 de l'Italie étaient très différentes par rapport au reste du monde.
On est à la veille de 68, il préfère alors la France à l'Italie. Nino Cerruti se livre dans une interview publiée sur le site de son entreprise il y a quelques années. Il raconte plus d'un demi-siècle de mode, sa veste déstructurée, cette veste sans doublure ni rembourrage dans les épaules, et une vie à habiller les hommes. Puis enfin les femmes.
Quand j'ai réalisé ma première collection pour les femmes, je les avais présentées avec des habits similaires à ceux des hommes. C'était un choix. Puis, dans les collections successives, je leur ai fait porter des pantalons. C'était l'évolution de ce qui était une prise de liberté et de pouvoir de la part des femmes.
Un demi-siècle durant, c'est lui qui fait la mode italienne. Giorgio Armani, par exemple, a été l'un de ses apprentis. Rome, Antonino Gallofaro, France Inter.
Et au mot élégance, Nino Cerruti préférait celui de style, et il en avait.
Le style de Christelle Robière. Merci. Dans les journaux de France Inter.
C'est vrai.
Le temps de ce dimanche.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Avec des brouillards givrants hein, ce matin, Jean-Michel Gonaski.
Eh oui, des brouillards givrants. On regarde les températures qui sont descendues entre moins 6 et moins 8 degrés sur la transversale nord-est sud-ouest. Les gelées sont quand même plus faibles, voire inexistantes, du Val-de-Loire à la Manche, sur le Roussillon et la Corse. Le temps de la journée sera gris sur une large moitié nord, entre les côtes de la Manche, le Poitou-Charentes, le Limousin et la Bourgogne-Franche-Comté, avec même de temps en temps un peu de pluie après voir au nord de la Loire et des flocons des Ardennes au Grand Est, tandis que plus bas, la moitié sud va rapidement profiter d'un ciel tout bleu. Avec cet après-midi, des valeurs de 10 à 14 degrés autour de la Méditerranée et sur l'arc atlantique, contre 2 à 5 sur les régions de l'Est. Il fera 6 au Mans, à Lyon, à Tours et à Paris, 7 à Lille, Limoges et Toulouse.
Jean-Michel Golinski, Météo France.